Donc je vous remercie de nous accueillir lors de notre petite sortie familiale. Donc je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse Florence et avec Noémie. Ça ne vous a certainement pas échappé que notre nom de famille, ce n'est pas un nom de souche mennonite. Hein. Donc, mais ça je dis après. Je vous ai remercié pour votre accueil. Et je me sentais déjà accueilli déjà avant de venir ici, parce que j'étais sur votre site internet pour regarder les heures des cultes et aussi l'adresse. Et ce n'est pas pour vous jeter des fleurs, mais à mon avis, il est très bien fait, votre site. Il est accueillant, il est, on trouve bien ce qu'on trouve, ce qu'on cherche. Il est vraiment... Moi, je trouve qu'il est bien fait. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, quelques informations quand même pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Donc, moi je suis issu d'une famille non chrétienne et je me suis converti en 1986 à l'âge de 19 ans dans ma ville natale à Saarbrücken en Allemagne, donc ville frontalière avec la France. Et mon épouse est originaire d'Amiens et elle s'est convertie dans la même année que moi, mais à 400 km éloigné, en région parisienne. Aujourd'hui, donc, le but était entre autres de parler de l'Église persécutée, et je me permets de faire le lien aussi avec le SFE, qui œuvre au Laos, que vous connaissez bien, et je ne m'attendais pas à ce que Sophie soit ce matin au culte ici. Donc, une vétéran du Laos, elle connaît très bien. Nous, on va découvrir parce qu'au mois de septembre, on va donc partir pour travailler avec Thomas et Lidianus Baumer, qui est le directeur, donc qui sera mon patron, qui était le patron de Sophie. J'ai vu aussi sur votre site internet que vous avez encore cette recherche d'emploi, donc d'un administrateur. Donc.
Il faut que
tu
l'enlèves.
Il faut que tu l'enlèves parce que là il se trouve devant vous. Et ce serait une aventure. Et en introduction donc de la méditation que j'apporterai, une petite vidéo qu'on ne va pas regarder jusqu'à la fin. Elle dure 4 minutes, mais on va regarder que 2 minutes. Hein, et je te dirai au moment où, où tu peux arrêter. Hein. Voilà. C'est la première vidéo avec le numéro 1. Voilà. Merci. Donc vous avez tous deviné de quoi il s'agit. C'est donc une parabole de Jésus. C'est la parabole des talents, exactement. En lisant ou en entendant cette parabole, est-ce que ça vous est arrivé de vous sentir un peu mal à l'aise? Peut-être je suis le seul, moi oui. J'avoue que moi, oui, c'est arrivé. Parce que on pense un peu, voilà, il faut produire quelque chose. Il faut être performant. Donc c'est un peu comme une pression qui peut être sur nous. Parce que, ah oui, il faut que j'arrive à faire quelque chose. Est-ce que j'ai la capacité de le faire? Et notre société nous façonne un peu, nous formatise un peu. Dans ce système de production et de consommation, il faut faire tourner la boutique. Mais quoi si je ne suis pas à la hauteur de produire de ce que Dieu me demande? Serais-je rejeté? De tels sentiments sont issus des valeurs du monde. Parce que nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres. Nous sommes justifiés par la grâce. À la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, si vous voulez bien, on va lire le texte ensemble, qui se trouve en Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, et les versets 14 à 30. 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui partait pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, et à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui en avait reçu 1, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. Le maître lui dit, non lui, pardon, maître dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut confier beaucoup de choses. Tu t'es monté fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je te confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je te confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu 1 lingot vint à son tour et dit, maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répondu de ça. Alors, j'ai pris peur. Je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, vaut rien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de sémences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot, et qu'on le donne à celui qui en a déjà. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Il y a une autre traduction qui ne parle pas de lingots, mais de 5 sacs d'argent, et de 2 sacs d'argent, puis d'un sac d'argent. Donc certains commentaires disent que le contenu d'un sac correspond à 75 livres, donc 37,5 kilos d'argent chaque sac. Ce qui est important à retenir ici, c'est que chacun a reçu la quantité en proportion de son habileté. Mais pourquoi Dieu ne distribue pas les talents de manière égale? Je ne dis pas que c'est la réponse, mais moi je pense que Dieu aime la diversité, et c'est aussi dans son plan pour nous en tant que chrétiens que nous prenions soin les uns des autres, et que dans l'amour que nous recevons par lui, que nous redistribuions nos biens en sorte que chacun y trouve son compte. En tout cas, c'est un modèle qu'on trouve dans l'Église primitive, qui fonctionnait selon ces principes, et aussi dans les Actes des apôtres, on trouve le même principe. Rappelons-nous qu'une parabole est une histoire, en quelque sorte un conte emprunté à la vie, dont le but est la leçon à en tirer. C'est un peu comme les fables de La Fontaine qui racontent une histoire et qui se terminent par la morale de cette histoire est que, voilà. L'histoire est apparemment simple. Le maître confie ses biens à ses serviteurs qui doivent rendre compte à leur tour. Les deux premiers ont oublié la mise par leur travail et ils sont félicités et promus. Peu importe si le profit a été de 2 ou de 5, chacun a fait fructifier selon les dons qu'il a reçus et selon ses capacités. Et les félicitations du maître ne se fondent pas sur le profit, donc pas sur la somme, pas sur le montant, mais sur le travail de chacun à sa mesure. Le troisième serviteur n'a rien fait et a enfui son talent. Il a eu peur, ou plutôt, il justifie sa paresse par la peur des défauts du maître. Par le maître, il est blâmé de n'avoir rien fait. Mais si avec son talent, il avait produit seulement un seul de plus, un second, il aurait eu les mêmes félicitations que les deux premiers. Nous sommes bien conscients que tout ce que nous avons, nos qualités, nos capacités, sont de toute façon des dons de Dieu. Et c'est à chacun de nous de les développer, de les faire fructifier, et non pas d'enterrer nos capacités, les possibilités que nous avons, les dons que nous avons reçus de la part de notre Seigneur. Quand on parle de talents, il ne s'agit pas seulement des finances. À l'un ou l'autre, Dieu donne des dons différents. Il y en a qui sont habiles pour la mathématique, pas moi, et je sais pas. Il y a qui sont doués pour la musique, pas moi non plus. Il y a certains ou certaines qui sont talentueux ou talentueuses pour des travaux manuels. Nous, dans notre église, on a une sœur qui excelle en travaux manuels, en travaux pratiques. C'est une bricoleuse, il n'y a aucun homme qui lui est égal dans notre assemblée qui pourrait dire que je fais aussi bien qu'elle. Dieu lui a donné ce don-là, pourquoi pas. Certaines personnes ont le don du relationnel, de créer des relations, de s'occuper des enfants. Il y en a qui ont un talent pour le jardinage, la fameuse main verte. D'autres sont doués pour la cuisine. Donc moi, j'arrive à peine à faire chauffer une botte ravioli dans un micro-ondes. Mais je sais déjà qu'il ne faut pas mettre la botte métallique dans le micro-ondes. Ça, j'ai appris. Hein. Ce qui m'est arrivé une fois, j'ai mis un œuf entier, il ne faut pas en faire non plus. Non, monsieur a réfléchi, mais il ne faut pas faire non plus parce que ça explose. Voilà. D'autres ont la facilité d'apprendre des langues. Je pense que pour Sophie, d'apprendre là-haut, c'était pas rien, hein. Je pense qu'ils vont comme ça, et nous c'est devant nous, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, la liste pourrait encore être prolongée. Mais ce qui est un piège, c'est de comparer ce que nous avons reçu, ce que nous avons obtenu, avec les dons que les autres ont reçus. Dieu a pris le plaisir de nous créer avec des talents et des quantités de talents différents. C'est lui qui est notre créateur. Et nous sommes créés à son image, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en chacun de nous, il y a aussi un potentiel de créativité. Et nous sommes responsables de développer nos talents. Le maître n'avait pas fait de reproche au deuxième serviteur qui a gagné 2 talents, tandis que l'autre en avait gagné 5. Parce que ceci rentrait dans le cadre de ses capacités. Quand on va assis au début de la Bible, Caïn et Abel avaient des métiers différents. L'un être élévateur et l'autre agriculteur. Donc la version du semeur dit berger et cultivateur. Le problème n'était pas les différents talents ou les différents métiers, mais le problème, c'est la jalousie. Caïn n'avait pas raison de se sentir inférieur. Il aurait pu donner des pommes de terre à Abel pour acheter une brebis et offrir un sacrifice selon la volonté de Dieu. Mais il a fait le mauvais choix, en pensant que s'il offre des fruits de la terre, et certainement il a pris les meilleurs, il pourrait être agréable à Dieu. Mais n'oublions pas que Dieu avait dit avant que le sol était maudit. Et ce que Dieu demandait comme sacrifice, c'était un animal. Le résultat était la déception, la jalousie et hélas, le premier meurtre sur la terre. Pour faire fructifier nos talents, nous disposons tous du même nombre d'heures par jour. On pourrait dire que c'est une question de priorité. Si on parle maintenant en termes de s'investir pour l'Église, c'est vrai, on peut dire une telle personne est partie en retraite, bien sûr qu'elle peut faire plus. Chez nous, dans le bassin houillé, il y a des personnes, après la fermeture des mines, qui sont parties à l'âge de 38-40 ans en retraite. Certains sont chrétiens, et merci pour cela, parce qu'ils peuvent servir Dieu. D'autres disent oui, mais cette personne-là, elle a un emploi de 35 heures par semaine, et moi, je bosse 45 heures, voire plus. Il y a beaucoup d'agriculteurs ici dans la région, ça compte pas les heures, n'est-ce pas? Et j'avoue que ce n'est pas toujours notre libre choix, le temps qui nous reste à notre disposition. Mais que dit la Bible? Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Parce que même quand je me trouve à mon travail, je suis toujours disciple de Jésus, je suis toujours serviteur de Dieu. Suis-je conscient que je peux aussi glorifier Dieu sur mon lieu de travail, là où il m'a placé? Est-ce que je montre l'intérêt à mes collègues de travail? Est-ce que mon patron ressent que si je vais un peu au-delà de mon engagement requis, ce n'est pas pour avoir plus de salaire, mais c'est pour glorifier mon Dieu? Que fais-je de mon temps disponible? Est-ce uniquement pour mes plaisirs que j'investis mon temps, ou est-ce que j'ai à cœur l'œuvre de Dieu, de le servir? Est-ce que j'ai à cœur de réjouir le cœur de Père, de Céleste, moi qui suis son enfant, et à rentrer dans cet appel de travailler dans le royaume de Dieu? Si nous prions de notre Père, donc cette prière que Jésus nous a apprise, que ton règne vienne sur la terre comme c'est le cas au ciel, que faisons-nous pour que cela devienne une réalité? Dieu pourrait imposer son royaume par la force, aucun problème. Mais ça, c'est la manière des hommes de faire. Dieu veut construire son royaume par ses enfants, pas nous. Des hommes, des femmes, et même des enfants, des adolescents, qui aiment Dieu plus qu'autre chose. Tout à l'heure, je vous montrerai encore une petite vidéo de 5 minutes qui parle de deux adolescentes au Laos. Et il n'y a rien de plus précieux pour elles que de suivre Jésus, quel que soit le prix. Est-ce que je me plains de mes talents ou des talents que je n'ai pas reçus? Et en quelque sorte, j'accuse Dieu qui ne soit pas juste. Ou est-ce que je le remercie pour les talents que j'ai et je me mets en route, je me mets au travail pour faire fructifier mes talents, pour le glorifier? Dieu est le Dieu créateur. Et si je retiens mes talents, je ne lui ressemble pas, je ne ressemble pas à mon Père Céleste. Et je ne pourrai pas entendre cette parole, entre dans la joie de ton maître. Ou autrement dit, partage la joie de son Père Céleste. Dans le texte biblique, nulle part, il est écrit que le maître réclame de retour les talents. Ni les talents donnés, ni les talents gagnés. Et je pense qu'il n'en a rien à faire. Il veut seulement se réjouir de ce que ses serviteurs se vivent sans exemple. Je pense que Dieu se réjouit que nous vivons sans exemple de Créateur, que nous mettons des choses en œuvre, que nous travaillons avec ce qu'il nous a donné. Et des fois, il faut investir. Là, il y a certainement beaucoup qui se connaissent beaucoup mieux que moi en ce domaine, mais si nous n'avons pas d'arbres fruitiers pour récolter de belles cerises, des pommes, des mirabelles, nous ne pourrons jamais en récolter si nous ne commençons pas à en planter. Dieu ne se soucie pas de ce que nous puissions faire des erreurs. Si nos cœurs sont bien disposés, c'est l'esprit du monde qui met une telle pression sur nous. Il faut un peu faire attention aussi. Il y a certains qui ont reçu beaucoup de talents. Et c'est une bonne chose. C'est une grâce de Dieu. Mais si on utilise ses dons, ses talents, sans avoir le sens de responsabilité, ça peut s'avérer dangereux. Il y a un proverbe anglais que j'ai traduit littéralement. Si tu veux que tes enfants gardent les pieds sur terre, charge tes responsabilités sur les épaules. Donc, vous comprenez l'image ? Autrement dit, si tu ne veux pas que tes enfants deviennent orgueilleux à cause de leur talent, rends-les responsables. L'utilisation de nos talents doit se faire avec humilité. Il y avait une fois un serviteur de Dieu qui a dit : l'humilité n'est pas de penser trop haut de soi-même, ni de penser trop bas de soi-même, mais plutôt de ne plus penser à soi-même, c'est-à-dire de penser aux autres. Le serviteur paresseux ne trouve d'autres excuses que d'accuser Dieu et d'être qu'il soit trop exigeant avec lui. Jésus veut nous faire comprendre que nous avons des... C'est vrai, quelque sorte, l'obligation de faire fructifier nos dons, mais il veut nous aussi faire participer à cette joie que Dieu a, nous voyons travailler dans son œuvre. Le serviteur qui refuse de multiplier son talent le fait parce qu'il projette ses qualités humaines sur le maître. Ça veut dire qu'il a une mauvaise image du maître. J'ai aussi des ressources financières que, par la grâce de Dieu, dont je dispose par la grâce de Dieu. Ah Seigneur, je te donnerai plus si tu fais en sorte que je reçoive une augmentation de salaire. Je suis honnête avec vous. Il y avait une époque où c'était mon état d'esprit. Je me suis dit, ah Dieu, si j'avais plus, je donnerais plus. Mais c'est complètement hypocrite. Car en réalité, si mon cœur n'est pas disposé avec ce que j'ai maintenant, il ne sera pas non plus si je dispose de plus d'argent. Dieu se réjouit. Il nous va à l'œuvre. Le proverbe 8, 31 à 32, dans la traduction du semeur, j'ai joué sur sa terre dans le monde habité et trouvé mes délices dans les êtres humains. Maintenant donc, mes fils, écoutez, heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Mais comment trouver sa voie ? comment ne pas se tromper. Sophie, désolé, je t'utilise un peu aujourd'hui. Je pense qu'avant de partir dans un pays comme Laos, on se pose quand même des questions. Est-ce que c'est la bonne place pour moi? Est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Est-ce que Dieu veut réellement ça? Dieu nous donne de bon sens, vous savez, un cerveau pour réfléchir, pour évaluer les choses. Mais on a aussi la foi, et la foi, des fois, peut être le contraire du bon sens. Mais à ces moments-là, Dieu nous y prépare, afin que nous puissions faire le bon choix et faire des pas dans la foi. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit encore à mon épouse, si on y pense que nous, Paulos, pour 3 ans, à notre âge, c'est quand même fou, non? Et bien sûr qu'on se pose aussi la question, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Moi, je suis persuadé, si nous aimons Jésus, si nous cherchons la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas nous tromper, à condition que notre démarche se fasse dans l'humilité et que nous cherchons la gloire de Jésus. J'étais encore jeune chrétien, donc il y a très 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 longtemps, j'ai vu le livre « Espiègle-toi Seigneur » de Lord Cunningham, qui est le fondateur de Jeunesse aux Missions. Et lui, il a expliqué dans son livre, en ce qui concerne cette certitude, est-ce que je suis dans le plan de Dieu, est-ce que c'est ça ce que le Seigneur veut. Il nous a dit qu'il faut être prudent avec les gens qui viennent vers toi, qui disent « ça c'est la volonté de Dieu pour toi ». C'est vrai que Dieu peut confirmer une voix par un frère, par une sœur, mais si c'est sa volonté, il te parlera d'abord à toi, il parlera dans ton cœur, et puis il confirmera. Je continue avec un passage, Romains 8, 28 à 39, toujours la traduction du semeur. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il a aussi donné sa gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. »